à toutes et à tous. Nous reprenons ce séminaire du 8-9 du matin qui a été très défavorablement impacté, vous en êtes rendu compte, hélas, par le mouvement de grève de décembre qui s'est prolongé en janvier. Nous étions, nous, tout à fait volontaires, Déborah et moi, pour bien sûr maintenir, mais nos invités, eux, souvent ne pouvaient pas venir, tout simplement, habiter en banlieue, etc. Et en Ile-de-France, la vie a été parfois très compliquée, et nous n'avons pu vraiment reprendre qu'aujourd'hui. Voilà, en espérant, et nous allons reprendre notre rythme, je parlerai de la prochaine séance à la fin, au mois d'avril, en espérant que l'épidémie montante ne nous confine pas tous à la maison. Alors aujourd'hui nous reprenons, mais nous faisons plus que reprendre, parce que reprendre avec Richard Reichmann, c'est une reprise particulièrement importante. Richard donc est un collègue et ami de l'école, à la fois psychiatre et anthropologue, grand spécialiste particulièrement du Cambodge. On reparlera bien sûr certainement à plusieurs reprises du génocide commis au Kampuchea démocratique entre 1975 et 1979. S'il y a une chose d'ailleurs que dont le livre m'a convaincu, c'est que le mot génocide s'imposait absolument dans ce cas. On y reviendra, qui est parfois mis en question. Alors, oui, c'est un génocide de classe, c'est un politicide, c'est pas un vrai génocide. Enfin, voilà. Il suffit de lire le livre pour comprendre de quoi il retourne. Richard, pour peut-être certains d'entre vous étaient venu pour son roman Les Vivantes en 2013 ou 2014, le roman est de 2013, mais je ne sais pas si tu es venu en 2013 tout de suite. On avait laissé un certain temps parce qu'on ne travaille jamais au cul du camion, comme on dit dans le monde des sciences sociales. Sauf qu'aujourd'hui, si, le livre vient de sortir, mais évidemment, compte tenu de mes sujets, etc., ça ne pouvait plus attendre. Voilà. Les Vivantes, qui était un roman autour effectivement de ces rescapés au fond du génocide commis au Cambodge. Ici, il s'agit d'autre chose, à CNRS Édition, avec la vie ordinaire des génocidaires. C'est un livre avec lequel je me sens en situation de dialogue critique parfois. Nous poursuivons depuis longtemps, Richard et moi, une discussion dans laquelle nous sommes parfois entièrement d'accord, parfois en désaccord, mais aujourd'hui, c'est pas un débat, il s'agit d'abord, dans le temps imparti, que Richard puisse développer son point de vue. Et le livre part, je questionne d'abord Richard, puis je vous laisse très vite la parole sur un sujet comme celui-là, où chacun a beaucoup à questionner, à dire, bien sûr. Le livre part, en fait, c'était une surprise pour moi, des tueurs de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, très audacieusement et de manière convaincante d'ailleurs, rapprocher des tueurs de masse et des génocidaires, on peut trouver des bourreaux, enfin on peut trouver tous les termes, aucun n'est vraiment satisfaisant, en termes de ce qu'il appelle les modalités générales d'administration de la mort. Richard Reichmann nous dit ceci: il existe bien plus de similitudes entre un combattant de Daesh et un exécuteur Khmer Rouge, ou encore un nationaliste serbe pendant le conflit en ex-Yougoslavie, un extrémiste Hutu pendant le génocide des Tutsis du Rwanda, un membre des forces spéciales de Bachar el-Assad, gazant les populations civiles, contre ce soldat du djihad et un jeune de banlieue, entre guillemets, radicalisé. Vous voyez la perspective, évidemment, qui est d'emblée originale. Ce qui est, à mon avis, en grande partie la thèse centrale du livre, alors je cite... Ça résume trop, bien sûr, parce que la thèse est complexe, elle se déplie pendant tout l'ouvrage, mais enfin, je cite ce début: la plupart des tueurs de masse n'ont pas plus de motifs personnels ou idéologiques que de passion pour la mort ou le meurtre, de sorte qu'ils n'ont même pas besoin de libérer leur pulsion sadique pour tuer, ils tuent simplement comme d'autres vont au travail. Donc c'est ça, la vie ordinaire des génocidaires, c'est... l'ordinarité, si je puis dire, du meurtre de masse ou du meurtre relativement isolé, comme celui de Charlie Hebdo. C'est ça, au fond, ce point de départ du livre. Alors, il y a aussi évidemment un autre point de départ, si je puis dire, on y vient tout de suite, hein, qui est plus dans la profondeur de champ, si je puis dire, hein, évidemment, c'est ta pratique clinique et anthropologique, hein, dont tu parles très vite, hein, dès la page 29 du livre, tout d'abord au centre de transit de Créteil, à partir de 87, où tu reçois donc, des Cambodgiens, donc passés bien sûr par le génocide, des victimes, mais aussi des tueurs, mais aussi des tensionnaires. Hein, les deux se retrouvent donc dans tes consultations. C'est, je crois, là qu'il faut que tu nous dises ce que tu as appris, parce que la maturation, en quelque sorte, de ce livre vient, j'espère ne pas me tromper, la maturation de ce livre dans le long terme vient évidemment de cette expérience fondamentale qui se poursuit toujours, hein, de travail avec ceux qui ont subi, hein, le meurtre de masse ou ceux qui l'ont finalement perpétré.
Oui. Tout à fait, tu as parfaitement raison. Hein, ce travail, c'est un travail qui remonte à presque 30 ans maintenant d'élaboration. J'ai d'abord beaucoup travaillé sur les victimes et secondairement sur les bourreaux. Et j'expliquerai peut-être pourquoi j'ai commencé à travailler sur les bourreaux. Quand je dis que ça fait 30 ans que je travaille dessus, mais que je me suis vraiment focalisé sur la question des bourreaux, ça fait 6 ou 7 ans. C'est quand même un nombre d'années significatif. Alors comment ça s'est fait? Je dirais d'une façon presque naturelle. En travaillant sur les victimes, avec les victimes, je me suis rendu compte d'un double paradoxe. Le premier paradoxe, c'est qu'on dit toujours qu'il y a de l'indicible dans ces situations-là et que les gens, finalement, auraient énormément de mal à raconter leur histoire. Au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. Ce dont les gens ont du mal à parler, c'est ce dont ils n'ont pas envie de parler ou qu'ils ne peuvent, ou que ce n'est pas la chose la plus importante pour eux. L'indicible, je dirais plus volontiers, c'est quelque chose qu'on n'entend pas, qu'on ne veut pas entendre. Quand les gens nous disent, vous savez, pendant cette période, je n'ai pas fait que pas mourir. Je n'ai pas fait que pas mourir. Je n'ai pas fait que d'être à la place des morts. Je n'ai pas fait qu'être dans la mort. Et qu'elle était un élément central pour moi de compréhension aussi de ce qu'allait pouvoir être une pratique thérapeutique pour les aider. Il ne s'agissait pas de les sortir de la mort, il ne s'agissait pas toujours de leur demander de témoigner de la mort des autres. Il s'agissait à un moment de pouvoir entendre que oui, quand on vit 4 ans sous les Khmers rouges, il y a un mode de vie qui existe. J'utiliserai le terme de forme de vie exprès.
Dieu, je t'y amener tout
à l'heure. Parce que c'est le seul concept qui me permettait de le dire. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire que la vie est douce. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vivent bien. Loin s'en faut. Je suis juste en train de dire qu'ils ne font pas que ne pas mourir. Qui est un point pour moi central, parce que c'est le point d'accroche qui va permettre de travailler avec ces personnes et aussi d'entendre leur histoire personnelle, comment au quotidien ça se manifeste avec transformation complète de la temporalité, enfin plein d'éléments, mais qui ne sont pas que traumatiques, que l'on doit pouvoir entendre et que l'on doit pouvoir percevoir les traces. Alors pourquoi j'utilise ce terme aussi, pas d'un point de vue théorique, c'est d'un point de vue éthique, c'est que jusqu'à présent on avait toujours utilisé un autre qualificatif qui est celui de survivre. Les survivants. Alors, probablement qu'en termes d'historien, de politiste, c'est intéressant. Mais comme Stéphane l'a rappelé, je ne suis ni politiste ni historien et mon travail consiste à être au ras des individus. Pas d'un point de vue psychologique, mais une anthropologie des individus. Pas des intentionnalités, pas des causes générales, parce que les travaux qui ont été faits sur le génocide, pour moi, ils sont exceptionnels. Voilà, je n'ai rien à dire de plus, que ce soit les historiens, que ce soit les politistes, la façon dont ces choses ont été pensées, j'ai tout appris là-dedans, j'ai une dette considérable à l'égard de tous ces auteurs. La préface, la dédicace de ce livre témoigne de la dette que j'ai à l'égard de mon voisin.
Autour de cette table,
une fois trop flatteuse. Non, parce qu'une fois qu'on a payé cette dette, on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. Quand on ne veut pas payer ses dettes, on reste débiteur toute sa vie. J'ai payé ma dette, je leur dis qu'ils sont formidables. Maintenant, je fais ce que je veux. Et je pense comme j'en ai envie. Donc.
Et ben justement. Alors, je termine.
Donc, effectivement, le terme de survivant, pour moi, il a ceci de gênant. C'est qu'il suppose que les gens qui sont là auraient dû mourir. Et que finalement, dans la phrase même, il est posé la nécessité de leur mort et qu'on va se poser la question, mais pourquoi vous n'êtes pas mort ? Probablement important d'un point de vue historique, qu'il est beaucoup moins d'un point de vue subjectif. Et c'est une question à laquelle ils ne peuvent pas répondre. Pourquoi ils ne sont pas morts ? Qu'est-ce que je sais, moi, pourquoi je ne suis pas mort ? Je n'en sais rien, pourquoi je ne suis pas mort. Est-ce que j'ai fait une connerie? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Dans l'énoncé lui-même, alors avec tout un tas d'éléments, au Cambodge, régnait cette histoire qu'on répète tout le temps, d'une mère qui a caché un petit peu de nourriture à son jeune enfant pour ne pas le nourrir, pour le garder pour elle, attendant tranquillement qu'il meure, et une fois qu'il est mort, elle se précipite sur la nourriture, elle le mange. Élément central de la déshumanisation. Et sur la Shoah, on ne manque pas d'histoires comme ça. C'est probablement vrai. Ça sous-entend qu'on serait capable de faire n'importe quoi pour ne pas mourir. Ça, c'est pas vrai. Alors, j'ai rencontré plein de gens qui n'ont jamais été capables de faire n'importe quoi pour ne pas mourir. Mais ils racontent toujours qu'ils ont vu quelqu'un qui leur a raconté que quelqu'un avait vu quelqu'un qui leur a raconté que quelqu'un avait fait ça. Ce qui veut dire qu'ils soulignent à chaque fois le point de déshumanisation des autres, mais pas d'eux. Et moi, je l'entends comme ça. Eux n'ont pas été jusque-là. Parce que des gens qui sont capables de faire n'importe quoi pour vivre, il n'y a pas besoin d'aller dans un camp d'extermination, il n'y a pas besoin d'aller au Cambodge. Il y a un père récemment qui a laissé son enfant au quatrième étage d'un immeuble pour aller jouer à un Pokémon ou je ne sais pas quoi. Les gens sont capables de faire n'importe quoi. Il y a plein de pères, de mères qui se retrouvent en prison parce qu'ils ont maltraité leurs enfants. Ça existe. Pourquoi ça n'existerait pas dans les conditions d'extermination? En quoi ça va être emblématique de cette déshumanisation? Je n'en sais rien. Et moi, je suis parti du principe qu'il n'y avait pas nécessairement de déshumanisation, au contraire. Et qu'il n'y avait pas, il y avait trop de risques pour vivre à faire des choses épouvantables, qu'en revanche, pour les bourreaux, c'était une autre affaire. Et qu'eux, ils pouvaient tuer sans risque, sans obligation, sans contrainte. Ils ne faisaient pas ça pour sauver leur vie. Certains disent, si je ne le faisais pas, je me ferais tuer. On n'a jamais eu la preuve que certains, au Cambodge, on n'a jamais eu la preuve. Quelqu'un qui refusait de tuer se faisait tuer. Il se faisait tuer peut-être pour autre chose, mais pas pour ça. Donc cet énoncé-là, il est frauduleux. Ceux qui n'ont rien à perdre à tuer, ce sont les bourreaux. Et on a inversé la formulation sur les victimes. Donc j'ai laissé les victimes avec leur vie pour aller m'interroger à la forme de vie des bourreaux. Puisque si je voulais savoir comment on tue les gens, je trouvais beaucoup plus pertinent d'aller demander à ceux qui l'ont fait, plutôt qu'à ceux qui l'ont vu, l'ont entendu ou l'ont imaginé. Et là, on a des descriptions de plus en plus glaçantes.
Alors, glaçantes en particulier, Richard, parce que ce que tu dis, au fond, c'est que, si j'ai résumé de manière très brutale hein, ta pensée, tu corrigeras, c'est que les bourreaux font ce qu'ils font. Voilà. Ils font ce qu'ils font parce qu'ils peuvent le faire, parce qu'ils doivent le faire, parce qu'ils ont été, ils étaient, comme tu dis, à un moment disponibles pour le faire. Ce terme est très important. Disponibles pour le faire. Et au fond, ils ne sont pas mus, d'après toi, et par deux ressorts par lesquels on penserait qu'ils sont mus. Hein, d'une part, ils ne sont pas mus par l'idéologie. Hein, tu le dis demain, tu dis, oh, alors ça, pour le Cambodge, je trouve que c'est très convaincant. Hein, on a cru pouvoir expliquer le comportement des tueurs à partir des idéologies qui les habitaient, mais tous ne furent pas des idéologues convaincus. Nombreux n'ont jamais lu la moindre ligne de propagande. La plupart ne percevaient pas que les rudiments de la rhétorique de la beauté, de la purification, etc. Et pourtant, tous tuèrent avec plus ou moins de passion, avec plus ou moins d'enthousiasme, parfois avec cynisme ou sadisme, mais rarement avec remords. Hein? Donc ce ne sont pas, ils ne sont pas mus hein, par l'idéologie. Et deuxième proposition, extrêmement importante, hein, ils ne sont pas mus non plus, sauf finalement un certain nombre de cas, ils ne sont pas mus au fond par la cruauté, hein, ils ne sont pas mus par la recherche de jouissance dans le meurtre, dans le pouvoir qu'ils ont hein, sur les victimes. Ils sont, au fond, voilà, ils sont, c'est en ce sens qu'ils sont ordinaires, hein, même si il y a une sorte d'ordinarité, si je puis dire, le terme n'est pas français, hein, du bourreau, hein, chez toi. Je te cite ici. Si l'on veut toutefois accorder une certaine intelligibilité à cette référence à l'ordinaire dans le cas des tueurs de masse, il faut justement s'écarter de toute perspective ontologique d'homme ordinaire pour à l'inverse interroger empiriquement la vie ordinaire. Hein, de ces tueurs de masse. C'est là que tu en viens à cette notion, dans le livre de forme de vie hein, du sociologue Albert Ogiane, hein, et donc tu vas y venir. La vie ordinaire de ces tueurs de masse, de ces petits exécutants qui furent les complices dociles des plus grands crimes de l'histoire contemporaine. Hein. Il s'agira de savoir comment se décline la forme de vie hein, au sein de laquelle ces hommes et parfois ces femmes habitent leur quotidien et le vivent chaque jour. Hein, pendant que pour tous les autres, seule la mort violente dessine l'horizon. Voilà. Donc, ce ne sont pas des idéologues, même aux petits pieds. Ce ne sont pas des monstres, je partage tout à fait ton point de vue d'ailleurs. Ils ne recherchent pas la jouissance dans ce qu'ils font, voilà, ils sont dans une vie ordinaire, et cette vie ordinaire se déroule. Ils savent parfaitement, tu le dis ailleurs, ce qu'ils font, ils savent très bien que ce sont des êtres humains qu'ils tuent, ils ne déshumanisent pas, ils savent très bien ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils le font et parce qu'ils peuvent le faire. Voilà, donc, il faut que, c'est le point, bonjour madame, c'est le point central du livre, hein, c'est le moment que tu, il faut que tu le, développe-nous un petit peu, pas trop longtemps, tu sais que j'aime bien parler, il faut que je te coupe la parole à tout moment.
Il n'y a aucun souci, j'adore ça. Là, c'est le seul truc qui l'arrête. Si ça m'ennuie, il le fait. Si je lui dis j'adore, ça va l'arrêter. Il ne veut pas me faire plaisir. Donc, oui, il y a deux aspects que tu relèves qui sont importants. L'idéologie, bien sûr.
Vous n'êtes pas dans la bonne salle. On est aussi bien commun, mais sous un angle un peu différent.
Désolé, j'en prie. Merci.
Alors, donc les deux aspects que tu relèves sont essentiels, celui de l'idéologie bien sûr, et celui du sadisme et de la cruauté et de la jouissance. Sur l'idéologie, il est évident que les idéologies sont importantes, parce que c'est elles qui vont faire tout le contexte d'un univers génocidaire. Comme je l'ai dit au début, je ne suis pas politiste, je ne suis pas historien, je ne m'intéresse pas au processus génocidaire tels qu'ils ont pu être mis en évidence par les historiens et les politiques, je prends ça pour acquis. Je trouve qu'il y a un décalage entre ce qu'on a pu dire de ces processus et l'acte de ceux qui tuent. Et moi, je m'intéresse à l'acte de ceux qui tuent, parce que toutes ces idéologies n'ont jamais tué personne, ce sont les hommes qui l'ont tué. Donc, je m'intéresse aux hommes et d'essayer de savoir comment ça se passe concrètement. Et donc, l'idéologie, finalement, qui est essentielle pour enrôler tout le monde, elle n'est pas immédiatement agie par les acteurs. Certains n'ont pas la moindre idéologie, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Alors, si on reprend encore l'exemple des radicalisés, certains ont inventé l'idée d'une radicalisation minute. Un type va s'idéologiser en 3 jours et devenir un radicalisé. Non, s'il s'idéologise en 3 jours, c'est que ce n'est pas l'idéologie, c'est qu'il y a autre chose, un autre facteur qui est intervenu. Et c'est ces autres facteurs qui vont m'intéresser. En plus, on se rend compte que, quand on va du côté des petits exécuteurs, que l'idéologie est tellement peu présente pour eux que le jour où les combats s'arrêtent, ils se réintègrent remarquablement bien dans la société. Ils retrouvent des postes, des fonctions, c'est pas forcément des tueurs, c'est pas forcément des salauds, ils ont oublié et ils ne sont pas complètement pris par le fait qu'il fallait les tuer tous les autres. On voit très bien au Cambodge avec les anciens cadres, petits Khmer rouges qui disent bon, si j'avais pu, s'il fallait le refaire, ça m'en aurait vraiment de le refaire. Franchement, j'aurais pas envie, mais bon, voilà. Sans plus, voilà. Mais ils ne sont pas plus idéologisés que ça. Donc, l'idéologie est un facteur qu'il faut prendre en considération, bien sûr, mais ce n'est pas le seul. Dès lors qu'on ne prend pas que celui-ci, alors, il y a plein d'autres facteurs qui arrivent et qu'on voit enfin. Parce que d'habitude, on ne les voit pas, ces autres facteurs, parce que celui-ci vient tout gommer. On le voit encore sur la question de la radicalisation, où les débats actuels se focalisent quasi exclusivement sur la radicalisation, sur l'idéologie, sur l'islam. Alors que c'est peut-être un facteur important, mais on ne peut pas imaginer que ce soit le seul et unique facteur. Je m'intéresse aux autres. Donc ça, c'est l'idéologie. Deuxième élément, peut-être encore plus important, c'est celui des pulsions. La pulsion de la jouissance, de la brutalité, de la cruauté. Alors moi, j'ai lu beaucoup les travaux de Stéphane, que je l'apprécie beaucoup, sur la question de la cruauté, dans le champ du combat, avec des facteurs qui sont très différents dans le combat. Parce que d'abord, il y a une interaction, il y a un danger pour le combattant, et on le voit très bien dans tout le travail de Stéphane, comment la compréhension de sa propre possibilité de mort ou de ses amis va mobiliser aussi des ressources psychiques incroyables qui vont aboutir aussi à cette brutalisation, à cette violence, à cette cruauté. Dans le cas des génocidaires, on est dans une conflictualité totalement différente parce que les types, ils n'ont rien à craindre. Ils ont en face d'eux des centaines, des dizaines de mecs qui peuvent absolument pas se répondre, et il n'y en a pas un seul qui va lever la main contre eux. Donc la peur et d'avoir les yeux un peu partout pour savoir d'où vient le danger n'existe pas. On est dans quelque chose là de mécanique, de tranquille. C'est aussi pour ça que je comparais ça aux attentats du Bataclan, parce qu'on était dans la même situation, des mecs avec des kalachnikovs, en face d'eux, personne qui peut leur répondre.
Dissymétrie absolue.
Absolue. Inégalité totale de l'armement. Donc ça n'est pas dans les mêmes conditions. Il y a un passage où je relève sur la question de l'indifférence, où je fais la différence avec les combattants, pour montrer que justement, c'est pas du tout, du tout le même registre. Donc, les gens qui commettent ce genre de crime, si on ne peut pas penser que c'est la peur, c'est l'angoisse, alors on va se dire que c'est la cruauté, la méchanceté, la perversion. Et alors là, il y a une littérature absolument abondante de tous les criminels les plus sadiques, les plus pervers qui peuvent exister et qui se sont répandus aussi bien pendant la Shoah, au Rwanda, avec les Khmer Rouges, avec bien sûr dans la guerre en ex-Yougoslavie et éplucher tous les comptes rendus du procès qu'il y a pu avoir à la haie sur cela, on voit des éléments de cruauté manifestes. Mais même si on les repère bien, même si vous mettez bout à bout tous les crimes commis par les plus pervers, on n'atteint pas le nombre de morts qu'il y a dans ces phénomènes d'extermination de masse. On les atteint pas. Donc ça veut dire qu'il se passe autre chose. Ça veut dire que, bien sûr, les plus cruels, les plus méchants, ils vont s'en donner à cœur joie. Et là, il n'y a pas besoin d'expliquer pendant des heures pourquoi les plus cruels, les plus méchants, ils vont s'y donner à cœur joie. L'explication est évidente. Et les autres, ceux qui ne sont pas cruels, ceux qui ne sont pas méchants, ceux qui ne sont pas pervers, bah, c'est eux qui vont finalement contribuer au plus grand nombre. Donc c'est sur eux que je travaille. Alors, je ne dis pas que la pulsion de mort, tous ces éléments ne sont pas présents. Mais ils ne sont pas présents comme on a eu l'habitude de les penser pendant très longtemps, et les psychanalystes ont la responsabilité là-dedans. On cherchait à réutiliser la pulsion de mort pour dire, au fond, il y a quelque chose d'une cruauté interne qui viendrait expliquer pourquoi les hommes sont capables de faire cela. Je ne vais pas revenir sur Freud, parce que je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ce que dit Freud que cela. Il ne dit pas qu'il y a un déterminisme. Il dit que c'est éventuellement possible, comme c'est impossible. Donc ça veut dire que ce n'est pas l'inconscient qui va trancher, finalement. Ce que nous rappelle Freud, en tout cas c'est dans ce sens-là que je le tire, ce n'est pas de nous dire « c'est présent dans l'inconscient », c'est « la réponse n'est pas dans l'inconscient ». L'acte prévisible n'est pas dans l'inconscient, il est possible, mais il n'y a aucune certitude de ce qu'il advienne. Il peut, il y a d'autres facteurs qui vont le faire advenir. Mais ces pulsions, pour qu'elles s'expriment sur les victimes, il faudrait qu'il y ait une interrelation, une intersubjectivité forte entre l'auteur et la victime. Or, quand vous regardez les processus d'extermination, il n'y en a pas. Ils ne sont pas dans une relation ni perverse ni sadique avec leur victime, ils sont juste dans un acte rapide, brutal, essentiel de les éliminer. Alors, pourquoi c'est de la vie ordinaire? Parce qu'il y a de la jouissance, bien sûr. Si vous prenez le cas de ce croate bien connu qui avait inventé un couteau particulier, c'était un gant, et il avait juste une lame à la place du pouce, comme ça il pouvait égorger énormément de gens en très peu de temps, et il faisait des coups courts de celui qui égorgeait le plus de personnes dans la journée, il les gagnait tous. Donc on en a fait le symbole de la cruauté la plus puissante, le monstre par excellence. Eh bien moi je prends le problème à l'envers. C'est-à-dire que si cet homme faisait des concours, c'est que sa jouissance n'était pas tournée contre les victimes, mais par rapport à ses collègues. Et là vous réinstaurez quelque chose de cette vie ordinaire. C'est-à-dire que c'est pas par rapport à la victime que ça se joue, c'est par rapport au chef, par rapport au copain, par rapport à la fille qui est là-bas, par rapport à ce qu'on va les raconter, de tout ce qu'il y a de plus habituel. La victime est juste un élément qui permet. Voilà.
Oui, mais.
Donc, c'est pas là que se joue la personnalité.
Bien sûr, je partage tout à fait ton point de vue là-dessus, si tu me permets de débattre un tout petit peu, parce que c'est un point donc, sensible hein, entre nous. Personnellement, je ne rabats pas la cruauté du côté du monstre. Je pense que la cruauté peut être tout à fait ordinaire, effectivement. Et un des défauts du travail sur la cruauté, c'est qu'elle l'attribue à des monstres. Je partage tout à fait ton point de vue. C'est le chapitre 2, hein, que ton chapitre 2, jouissance et cruauté du monstre. Jouissance et cruauté, il n'y a pas besoin du monstre.
Moi, exactement.
Et je me méfie, si tu veux, un tout petit peu de ce que les gens disent, de ce qu'ils ont pensé après. Ce que les gens ont fait, y compris de très mal, les tueurs peuvent le dire. Tu as tout à fait raison. Les raisons pour lesquelles ils l'ont fait, c'est peut-être une des zones sur lesquelles la modification de l'après-coup joue. Ça me fera beaucoup pour le cas qui est à l'opposé du cas cambodgien, à mon avis, par rapport à ton travail. C'est le cas, évidemment, rwandais, où les tueurs, évidemment, interrogés en prison par les sociologues politistes américains, disent « Moi, je n'ai rien contre eux. » Ce que je voulais, c'était les tôles de leur maison, etc., etc. Bah oui, parce que dire comme certains autres arrivent à le dire, ce qui était formidable dans cette période de 3 mois, c'est que j'étais bien. Je n'ai jamais été aussi bien. C'est très difficile à dire, ça. Tandis de dire, oui, non, moi, j'avais rien contre eux, ça s'est fait comme ça. C'est une facilité aussi de reconstruction. Et il me semble, si tu veux, qu'il y a des configurations. Tu vois, à un moment, tu cites le lieutenant Calais, le chef de la compagnie Charlie, qui est le responsable de la tuerie de Mila et de mars 68, et qui, à son procès 2 ans plus tard, dit c'était mon travail ce jour-là, je devais détruire l'ennemi, je ne me suis pas mis à réfléchir en termes d'hommes, de femmes, d'enfants, etc. Chez les combattants ennemis. Il écrase complètement toute motivation. Mais ce qu'il a fait lui-même est dit, on ne le sait pas. En revanche, ce que ces hommes ont fait, on le sait, et ça a été dans une configuration tout à fait différente de celle du Cambodge, où les tueurs sont tenus. De même que pour les tueurs de masse de l'UNKVD, quand ils exécutent les officiers polonais à Katyn, ils sont dans une cave, ils ont leur pistolet, on amène le type, ils tirent, le bras se lève, à la fin de la journée, ils sont épuisés par ce geste qui leur arrache l'épaule à chaque fois, ils sont dans un cadre qui ne permet pas, qui ne permet aucune créativité, en quelque sorte, meurtrière. En revanche, dans le cas du Rwanda, où l'encadrement est faible, voire inexistant, sur les collines, là, les tueurs déploient leur créativité meurtrière, et ne pas avoir cette créativité meurtrière, c'est manquer tout de même ce qui s'est joué. Parce que, tu dis, bien sûr, alors je trouve que c'est une idée très forte de ton livre, de dire que cette créativité meurtrière s'adresse aux compagnons, c'est-à-dire aux camarades, c'est vrai, mais néanmoins, dans le cas du Rwanda, ils ont le temps de parler à leurs victimes. Ils leur disent ce qu'ils sont en train de leur faire, pourquoi ils sont là. Donc il y a quand même, à mon avis, une double interaction. À mon avis, l'accès double. Donc je te pousse de l'autre côté, tu vois. Mais en tout cas, c'est vrai que dans le cas du Cambodge, en particulier, dans le cas du NKVD soviétique pendant la Grande Terreur, et même dans le cas des Einsatzgruppen dans la plupart des temps, dans le cas de toute une série de configurations, ton tableau du tueur, je trouve, est vraiment extraordinaire, enfin vraiment, il est extraordinairement éclairant. J'essaye de, quand tu dis, au fond, tu dis tous savent ce qu'ils font et pourquoi ils le font, et tous attachent une importance particulière à accomplir avec plus ou moins de précision la plupart des tâches quotidiennes qui leur sont dévolues, c'est-à-dire que l'indifférence ne touche pas toutes les sphères de la vie affective. Et tu dis un peu plus loin, à leurs yeux, jamais ils n'avaient perdu le sens du bien. Ça, c'est une phrase évidemment décisive. Tout au contraire, leur sens du bien reposait sur le travail bien fait, sur la rigueur, le soin apporté au respect des procédures. Et tu termines en disant, lorsque l'extraordinaire de la vie et de la mort devient d'une telle banalité, alors ce sont toutes les autres activités du quotidien qui prennent de l'importance et focalisent l'attention et les affects. C'est cela, l'ordinaire. Je souscris entièrement à cette idée, mais je n'y souscris pas forcément dans toutes les configurations génocidaires qui sont très variées, au fond. Tu vois, tu en as une, je pense que tu as été très marqué par ta configuration cambodgienne, je sais on peut le comprendre. Moi qui travaille sur un génocide presque à l'opposé dans son dispositif, même si le résultat, évidemment, est un peu du même ordre, j'ai une vision différente et je ne pense pas qu'elles soient d'ailleurs contradictoires. Je pense qu'elles elles peuvent se combiner, mais on aboutit à ce moment-là à un tableau d'une extraordinaire, d'une complexité extrême.
Alors peut-être pas aussi complexe et extraordinaire que cela, parce que je crois que ce sont deux objets en fait un peu différents. Pas les deux génocides, mais les regards. Ton regard et mon regard ne sont pas exactement les mêmes, c'est-à-dire que on ne s'intéresse pas exactement à la même chose, et c'est ce qui fait que c'est plus complémentaire qu'opposé. Il est évident que la façon dont j'organise les choses repose plus sur ma connaissance du Cambodge que sur ce que je connais du Rwanda, de seconde main, avec des travaux, avec nos étudiants respectifs, avec ce que j'ai pu lire. Bien sûr, je n'en ai pas une lecture aussi fine. En même temps, j'ai quand même lu pas mal de choses.
Je trouve bien que le livre est nourri, sociologiquement, philosophie, psychanalyse, histoire, sociopolitique,
il y a tout ce qu'il faut. Il y a du travail.
Je ne dis pas que c'est un essai rapide.
Mais quand je dis que ce n'est pas le même objet, c'est-à-dire que depuis des années, un certain nombre de chercheurs de qualité se sont focalisés sur l'acte de tuer. Pas moi. C'est cela qui nous distingue. C'est-à-dire, mon objet, ce n'est pas l'acte de tuer. Je ne cherche pas à comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un au moment où il tue. Je le prends au pied de la lettre quand il dit bah, « il ne se passe pas grand-chose dans ma tête ». Et ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a autour. Parce que ces gens-là, même s'ils tuent beaucoup, ne tuent pas tout le temps. Par contre, et c'est là où ces concepts de forme de vie ou d'ordinaire mènent, toute la journée, ils sont dans la mort. Toute la journée, ils sont dans la mort. Pas simplement dans l'acte de tuer. Alors quand ils disent « je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête au moment où je tue, je ne vois pas penser, où il y a de la cruauté, le truc... » Mais le reste du temps, quand il faut préparer les corps, quand il faut préparer les armes, quand il faut imaginer comment on va se débarrasser des corps, comment on va rire, toute la journée, les blagues, les plaisirs tournent autour de ça, la vie quotidienne tourne autour de ça, les lettres que je cite à un moment tournent autour de ça, c'est-à-dire qu'en même temps on raconte la visite dans un village, il y a des corps pendus, l'église qui est jolie, et bonne nuit mon bébé ou mon... Voilà, c'est ordinaire, cette association, cette possibilité de dire dans la même phrase, dans le même texte, voilà, il y a des gens qu'on a assassinés, bon, j'ai pas eu de saucisse aujourd'hui. Eh bien, ce qui est important, c'est de voir quelles sont les choses les plus importantes pour ces gens. C'est ça qui m'a intéressé. Ben, les choses les plus importantes, c'est leur quotidien. La question que tout le monde s'est posée, à quoi pense un tueur lorsqu'il tue ? J'apporte une réponse un peu différente, il pense à lui. Il pense à ce qu'il va faire après, il pense à ce qu'il va manger le soir, il pense à ce qu'il va raconter chez lui, il pense à ce que ça passe peut-être le plus vite possible, il pense à lui, comme nous tous d'ailleurs. Et c'est en cela qu'il se rapproche considérablement de nous, et qu'il est encore plus glaçant et effrayant, parce que moins il est salaud, plus il est ordinaire, plus on se dit, tout le monde pourrait l'être.
Et voilà, là, justement, ça. Voilà. ce mantra quotidien, on est tous des bourreaux, tu dis non.
Non.
Bon, tu vas y revenir. J'ai déjà trop parlé avec toi, mais je suis comme le problème. Il faut que je me retienne parce que j'ai besoin d'un débat de 2 heures. Donc il ne faut surtout pas que je fasse ça. Et on va le faire. On va le faire. On va le faire chez les socialistes.
Avec plaisir.
Même bien là-bas. Tu vois. Allez, je vous laisse la parole.
Richard, j'ai une question. Tu disais qu'effectivement la déshumanisation n'était pas la réponse. Ne l'était pas. Est-ce que quelque part, néanmoins, malgré tout, c'est pas un élément de contexte ? C'est-à-dire que le fait, à partir du moment où les victimes, l'exécution, disons, le travail sur les victimes devient une sorte de routine ou de truc, ça laisse la place, effectivement, aux affects, au reste de la vie. Donc est-ce que c'est pas cette déshumanisation ou, disons, l'idéologie, même pas forcément expliquée, élaborée, mais simplement expliquée, donc l'organisation qui rend possible, effectivement, la possibilité d'exécuter, de traiter tout ça, de l'intégrer dans ta vie, sans que ça te touche ou que ça t'affecte et que ça te permette, effectivement, de déployer des affects sur d'autres choses.
On peut faire cette hypothèse, mais elle présuppose 2 choses. La première chose, c'est qu'elle présuppose que ça serait très difficile de tuer des gens, alors qu'empiriquement, on se rend compte que c'est extrêmement facile, parce qu'il y a tout le temps, et qu'il y aurait une sorte, dans l'inconscient, quelque chose qui nous dirait que tuer un être humain, c'est un impossible, un impensable, et que ça doit entraîner des émotions particulières. Et moi, il me semble que ça n'en entraîne pas. Il y a donc plein de raisons. L'hypothèse qu'on a souvent formulée, c'est que les gens ont été déshumanisés, c'est pour ça que c'est plus facile de les tuer comme des choses. Je ne suis pas entièrement convaincu que ce soit une catégorie de déshumanisation. Bien sûr qu'ils ont été catégorisés en autre chose, mais ils ont quand même été catégorisés en autre chose, mais toujours des hommes. Anthelme disait, on ne peut pas sortir quelqu'un de l'espèce, quand bien même les bourreaux le voudraient. Je ne pense pas que les bourreaux veulent sortir les hommes de l'espèce. Ils veulent les tuer, ils veulent les éradiquer, parce qu'ils sont hommes. Et c'est ça qui est le paradoxe du génocidaire, de l'entreprise génocidaire. Je ne l'ai pas écrit dans ce livre, parce que je pense que je me ferais assassiner si je l'écrivais, mais le génocide le plus réussi serait celui où on ne tue personne. Parce que le fait de tuer les hommes les rend hommes. Et ça, c'est le paradoxe auquel se sont confrontés systématiquement les processus génocidaires. À chaque fois qu'ils tuent un homme, pour montrer que ce n'est pas un homme, en le tuant, ils en font un homme. C'est pour ça qu'ils vont se ruer sur les dépouilles, c'est pour ça qu'ils vont interdire les rites funéraires, c'est pour ça qu'ils vont détruire les cadavres. Parce que la seule façon de détruire l'homme de l'homme, c'est l'atteinte du cadavre, c'est pas la mise à mort. On le voit très bien, la mort, c'est ce qui est le plus humain. Tout le monde, nous vivons tous avec nos morts. Nos rues, ce sont des noms de nos morts. Nos salles, ce sont des noms de morts. Nous vivons. Il n'y a pas que les sociétés traditionnelles qui vivent avec les fantômes. Tout le monde vit avec les fantômes. Il y en a partout. La place, Général de Gaulle, il y en a depuis longtemps, le truc. Ils sont tous là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ils sont là. et on les respecte. Ce qu'on ne peut pas respecter, c'est les cadavres. Et le processus génocidaire vise justement à transformer l'homme, en cadavre. C'est ça, la déshumanisation. C'est la possibilité de faire passer un homme au seul statut de cadavre, c'est-à-dire le priver de devenir un défunt. Donc c'est pour ça qu'il y a tout cette volonté sur les corps. Mais en même temps, en faisant cela, il ne faut que toucher ce paradoxe, pour le coup philosophique, impossible. On ne peut effectivement pas sortir quelqu'un de l'espèce et on en fait un homme. Alors, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que finalement, la déshumanisation n'est même pas nécessaire pour tuer les hommes. Et que donc, c'est possible de les tuer. C'est pour ça que ce qui leur est le plus compliqué, c'est l'effet que ça a sur eux et la gestion des corps. Parce que justement, au Cambodge, ce qui m'avait frappé, c'est que les petits bourreaux avaient moins peur de ce qu'ils avaient commis que des fantômes. Et que les fantômes y revenaient. Et que ce qui était très étonnant, c'est que les fantômes, ils redevenaient protecteurs pour les vivants, qui gardaient ce lien très très fort avec leur... Et que les petits bourreaux, là, ils commençaient vraiment à avoir la trouille de ces fantômes qui venaient.
Les fantômes qui sont toujours là, d'ailleurs,
ils sont toujours là. Mais ils ne sont pas qu'au Cambodge, ils viennent ici. Et c'est ça qui m'avait fait comprendre un truc qui m'avait passionné de ce que j'avais écrit dans mon précédent bouquin, c'est que les fantômes, ils suivent les vivants. Ils sont là où il y a de la vie. Ben, c'est vrai, un fantôme n'a pas d'existence s'il n'y a plus de vivants. Ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. Ils viennent partout. Ils viennent en avion. J'avais une fois posé cette question stupide à une de mes patients.
Bien, bonne question de psy, ça, tiens.
Ils sont comme avec moi dans l'avion et elle me regarde et dit, je suis jamais posé la question.
Moi, j'aurais une question pour comprendre justement. Vous avez dit le mot bien. Enfin, ils n'ont pas perdu toute conscience du bien, c'est intéressant. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte cette fonction de tuer ou pas en réalité? Je vous dis qu'ils n'étaient pas obligés, enfin je peux bien croire. Mais il y a quand même des gens qui ont accepté, des gens qui n'ont pas accepté. Les gens qui ont accepté n'ont pas perdu toute notion du bien, donc la morale n'était pas quelque chose qui avait complètement disparu dans leur esprit. Mais alors qu'est-ce qui fait qu'on... Enfin, c'est quand même pas une activité tout à fait évidente. Qu'est-ce qui fait qu'on dit oui ou pas? Enfin,
cette question de la disponibilité. Les ressorts de la disponibilité.
Oui, voilà.
C'est une question essentielle.
Essentielle, je pense qu'elle n'est pas prédictive. On a toujours cherché à la rendre prédictible et tous les éléments que j'essaie de mettre en évidence montrent que les théories prédictives de cela tombent à l'eau. C'est pas dans le psychisme, c'est pas dans la condition sociale. C'est pas dans un choix comme ça de résistant, c'est dans d'autres éléments éthiques, je dirais. Parce que la disponibilité, c'est un ancien criminel va être probablement plus disponible qu'un autre, mais pas tous. Un type qui a besoin d'argent et qui a besoin d'avoir une vie tranquille va peut-être être plus disponible que d'autres, mais pas tous. Si on veut interroger la disponibilité, alors il va falloir faire ce qu'on n'a jamais fait sur ces questions-là. Et c'est dommage parce que les sociologues font toujours ça d'habitude. C'est-à-dire de comparer avec des choses comparables. C'est-à-dire qu'on va comparer des gens qui sont dans la même condition sociale, qui ont les mêmes problèmes, qui ont les mêmes questions familiales, et on va voir combien ont décidé de devenir des tueurs, combien ne l'ont pas décidé. On n'a pas ces chiffres. On ne les connaît pas. Et ils sont essentiels pour le coup, parce que c'est cela qui nous permettrait...
Pas de sociologie au sens...
Il faudrait appareiller des groupes et savoir si véritablement il y a des facteurs. Et on n'a que des hypothèses qui viennent et qui sont très fortes pour essayer de nous le dire. Alors on pense que c'est la militance, que c'est l'engagement, mais c'est pas sûr. Alors si je peux faire un petit détour par ma conclusion, parce que ça répond un peu à la...
Plutôt que je t'ai mal interrogé, c'est ça?
Je m'en bien, tu m'y amènes complètement, mais monsieur m'a encore mieux interrogé.
Merci, c'est très agréable.
Pardon, désolé. Parce que justement... À cette question que nous sommes tous posés, que nous nous posons encore, il y a eu un livre récemment qui a été consacré à ça, « Aurais-je été bourreau ou victime ?» qui est une question, moi je vais vous avouer, là, parce qu'on est entre nous, c'est une question qui me taraude depuis tout petit. Et je pense que, pour donner des éléments, c'est de ma propre analyse, mais pourquoi je fais ce travail? Parce que je me suis posé à l'âge de 10 ans, c'est cette question-là. J'ai été bercé dans toute mon enfance dans la Shoah, et sans être vraiment J'ai jamais voulu travailler sur la Shoah. Je me retrouve par hasard à devoir finalement commencer à travailler un peu dessus quand même. Mais j'ai jamais voulu. Et je n'ai jamais été dans une lecture justement de... Par rapport à ça, j'ai compris très tardivement que ça avait un lien avec mon histoire. Mais ce qui a un vrai lien avec mon histoire, c'est même pas la Shoah, c'est cette question-là. Aurais-je été bourreau ou victime? De quel côté je me serais trouvé? Alors, étant juif, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Voilà. On ne m'aurait pas laissé vraiment avoir le choix. Encore que, certains l'ont fait malgré tout. Mais c'est une question centrale. Et c'est vrai qu'en faisant ce travail, je me la suis posée tout le temps. Et on arrive presque à la fin de cet exercice en disant, mais alors, tout le monde peut venir pour vous. Tous les éléments que j'ai trouvés là montrent que tout le monde. Eh bien non. Le nombre reste très inférieur. Et là, pour le coup, je prends à nouveau l'exemple de Daesh. Parce qu'il est justement très différent de mon exemple familial, ou même de l'exemple des Khmers Rouges, parce que dans les Khmers Rouges, c'est le même peuple, mais pour les Khmers Rouges, c'est pas le même peuple, il y a une désignation radicale de l'autre, les catégories naturelles n'interviennent pas, ça c'est mon opposition vraiment marquée à tous ceux qui ont pensé le génocide fondé exclusivement sur la Shoah comme élément central pour dire « il y a les Juifs, il y a les bourreaux », et la catégorie préexistante est le motif de l'élimination. Or, j'essaie de montrer que la catégorie préexistante en tant que catégorie naturelle n'est pas essentielle. Les bourreaux sont capables d'inventer n'importe quelle catégorie. Ils sont capables de la créer. Et le juif du nazi n'est pas le juif empirique. Le juif du nazi, c'est le juif du nazi. Le tutsi du bourreau hutu, c'est le tutsi du bourreau hutu. Il n'y a pas besoin qu'il soit différent. Mais une fois que ces catégories sont posées, elles sont posées. Le bon et le méchant, le pur et l'impur, pas besoin d'être naturellement différentes.
Et donc ça veut dire que ta définition est beaucoup plus anthropologique que juridique.
Exactement. Réalité,
c'est ce qui est...
Exactement.
Parce qu'on se sort, nous, en sciences sociales, on ne se sort pas de la définition juridique du philosophe.
Mais parce qu'on la connaît mal, la décision juridique. Je l'ai relue. Et je me suis rendu compte que ce qu'il y avait de très étrange dans cette définition, c'est le fait que, je ne l'ai pas en tête, là, je l'avais noté, mais que les gens sont... persécutés pour leur, avec l'intention de les éliminer, parce qu'ils sont alors d'une origine culturelle différente, d'une nationalité différente, d'une religion différente, voilà. Qui sont les compléments, qui sont les quatre cas de figure. Mais là, ce qui est l'essentiel de la définition, et qui aurait dû nous attirer, c'est le début de la phrase. Ils sont éliminés parce qu'ils sont supposés être. Pas besoin de mettre le qualificatif qui va derrière. C'est-à-dire que si on veut rester vraiment légaliste, on reste au début de la définition et on est parfaitement dans la lecture du génocide. Ils ont été tués exclusivement parce qu'ils étaient, pas ce qu'ils pensaient, pas ils étaient. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière qu'ils étaient. Ils étaient jaunes, ils étaient verts, ils étaient juifs, ils étaient noirs, ils étaient de là. Et c'est cela où on s'est enfermé finalement dans cette définition, par le qualificatif final, alors qu'il me semble que c'est tout le début de la phrase qui est vraiment essentiel, de cette intentionnalité. Et alors là, effectivement, le génocide cambodgien, il rentre pleinement dedans. Mais pourquoi je disais ça? Parce qu'avec Daesh, on est dans un cas de figure totalement différent par rapport à cela, c'est-à-dire que ces catégories néo-formées sont extraordinairement fluctuantes.
Oui, la Bible.
La Bible. C'est-à-dire qu'il suffit qu'un type dise « Moi, je suis Daesh » pour qu'il soit reconnu Daesh. Ça, vous ne voyez pas ailleurs. Vous ne voyez pas un Tutsi qui dit « Moi, je suis Hutu. » Ah ben, c'est bon. Un Juif qui dit « Moi, je suis nazi. » Ah ben, c'est bon. Non, ça ne marche pas, là. Là, ça marche. C'est incroyable, ça marche. Donc, si, il suffit qu'un type envoie une vidéo et dit « Moi, j'étais Daesh, j'ai tué tous ces gens. » Daesh dit « On reconnaît. » Ça, c'est quelque chose d'une frontière dont on n'avait pas l'habitude. Il y a une perméabilité incroyable entre ceux qui seraient les auteurs et ceux qui seraient les victimes potentielles. Donc, si on reprend ma définition sommaire de la disponibilité, à ce moment-là, tous les musulmans devraient être disponibles. Et surtout dans certains territoires, si on voit par exemple la bande de territoire entre l'Afghanistan et le Pakistan, qui est quand même très très longue, où Daesh est encore très puissant, ils font des razzias, ils prennent des gens, il n'y a pas énormément de combats. L'enjeu majeur, c'est de rejoindre Daesh. Parce que c'est plus commode, on y mange, on est plutôt bien traité, on peut avoir la jouissance de faire chier les autres, de les tuer, on est tranquille, et il suffit juste de dire, il n'y a pas besoin de faire acte de profession de foi, il n'y a pas besoin de montrer qu'on est pur, il suffit de dire, je suis solidaire. Et c'est bon. Et pourtant, Daesh est obligé de faire des razzias pour recruter les jeunes. Daesh est obligé de menacer les familles pour recruter des jeunes combattants. Ils les prennent de force, certains. Et des milliers partent. Pas pour sauver leur vie. Et c'est ça que j'ai appris dans mes consultations. Quand je reçois des jeunes Afghans qui me disent « Moi, je suis parti parce que je voulais pas tuer. » Cette phrase-là, elle est restée dans ma tête. Travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, la disponibilité, ben, tout le monde ne se rend pas disponible. Et il y a des gens, c'est pas des intellectuels, c'est pas des militants, c'est pas des combattants, c'est pas des types idéologisés, c'est juste des types qui disent « Bah non, moi, mon voisin, j'ai pas envie d'aller le tuer. J'ai pas envie, je suis désolé, je préfère tout perdre, j'ai pas envie de ça. Pourquoi ? Je sais pas. » Alors, il y en a un qui me dit régulièrement « Moi, je suis un bon musulman, je ne tue pas. Je n'ai pas envie d'aller tuer. » Et il a perdu tout, ce type. Il a tout perdu. Il a pas vu la naissance de sa fille, il est arrivé en France. L'histoire se termine bien, parce que dans le livre, elle se termine mal. Mais une fois que le livre est paru, il est venu me voir en disant...
Parce que les vignettes cliniques, à la fin, sur justement...
Celui qui a tout perdu, c'est
refusnique, en quelque sorte. Ceux qui refusent, justement, l'engagement et qui ont fui jusqu'à... Non, les vignettes cliniques sont absolument épouvantables.
Il y en a un qui a eu les papiers.
Mais alors, c'est le hasard qui détermine celui qui dit je ne veux pas tuer et celui qui dit j'accepte finalement. On ne sait pas très bien.
On ne sait pas très
bien. Oui.
Mais on sait que c'est un acte réfléchi, éthique, où les gens savent les risques qu'ils prennent.
Ah, c'est ça.
Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas aller tuer leur voisin.
Et puis les autres.
Les autres, ils disent,
acceptent, mais sans motivation.
Voilà.
C'est cette question de la disponibilité disons que tu déplaces le mystère. Ton livre déplace le mystère, parce qu'il reste toujours du mystère, et il en restera toujours, je pense, sur un sujet comme les autres. Tu déplaces le mystère qui est comment peuvent-ils, etc., et comment, etc., est-ce que le sadisme, la déshumanisation, la... Non, le mystère, il n'est pas là. Hein. Le mystère, c'est comment se fait-il que certains sont disponibles et d'autres font en sorte de ne pas être disponibles. Et ce sont les mêmes. Rien de l'extérieur ne peut pas les différencier. Et ce déplacement du mystère fait que le mystère devient plus ordinaire, mais en même temps, me semble-t-il, par certains côtés, c'est ta question, plus opaque. Tu vois, enfin, une opacité même presque angoissante, parce que l'autre mystère, on le lève assez facilement. Malheureusement, c'est effectivement pas le cœur du problème. Le tien, les tueurs de S21, ces pauvres types interrogés par Ritipan, qui refont leurs gestes, dans son dernier film que j'ai vu, il interroge ces paysans, on croit d'abord que c'est des victimes, après puis on se rend compte que c'est des bourreaux, tout ça sympathique, le mystère s'épaissit à un endroit inattendu, je trouve.
Deux questions. En fait, c'est en lien avec ça. La première, quand même, il y a un mot que vous avez dit sur ça, c'est l'éthique. Est-ce qu'on peut un peu élaborer là-dessus ? Est-ce que ça trace effectivement une ligne quand même, et notamment sur la capacité d'empathie ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez détecté quand même ? Est-ce qu'il y a ceux qui sont quand même capables de plus d'empathie, ça crée une barrière ? De se mettre à la place d'eux ou de s'imaginer dans le rôle de la victime. Et la deuxième chose, qui n'est pas directement liée, c'est est-ce que la division du travail joue un rôle ? C'est-à-dire, est-ce que le dispositif, ça a été dit très rapidement, le dispositif d'organisation joue un rôle, ou d'une autre façon, est-ce que finalement ces modalités de génocidaires, elles sont propres à la modernité, à une façon de concevoir le rôle de l'individu dans la société, le fait que voilà, est-ce que ça aide, que ça favorise, ou par exemple, est-ce qu'on peut retrouver exactement des comportements du même style avant l'ère moderne voilà. C'est quelque chose qu'on a regardé.
Vous avez parfaitement raison, hein. Je pense que l'élément central, c'est celui de la division du travail. Et c'est pour ça que je parle d'une vie ordinaire. Dans une vie ordinaire, il y a une division du travail. Tout le monde ne fait pas tout, il y a des tâches qui sont... Et c'est en séquençant le travail qu'il est beaucoup plus facile à réaliser, avec l'objectif toujours d'améliorer la productivité, d'inventer des réflexions rationnelles. Je pense encore au Cambodge, où la question s'est posée à un moment où ils torturaient les gens à S21, et puis ils les assassinaient, ils les enterraient dans les faux fosses en dessous. Puis quand les fosses ont débordé, ils se sont dit, bah, on va aller les enterrer à 10-15 km. Et toute la question s'est posée de savoir où est-ce qu'on les tue. Parce que si on les tue sur place, bah, après, il va falloir les transporter. Transporter des cadavres dans des camions, c'est pas simple. Il faut les porter, le truc, le machin. Et après, ils se sont dit, bon, enfin, on peut en mettre 50 dans un camion, un seul garde avec une mitraillette, ils montent tous. C'est simple comme tout, ils arrivent vivants devant les fosses, et devant les fosses, on les exécute. Donc ça, c'est vraiment le séquençage du travail, c'est-à-dire qu'on se pose la question de la productivité, du meilleur rendement, et ce qui permet...
C'est possible pour les Einsatzgruppen.
Exactement, ça se pose toujours. Donc c'est pas une question de modernité, c'est une question de l'homme a toujours pris l'habitude de séquencer le travail, de distribuer des tâches pour le rendre plus productif. Et on se rend compte que ce sont les mêmes techniques qui sont appliquées pour gérer une certaine production que pour gérer la mort. C'est pour ça que j'appelle ça l'administration de la mort au double sens du terme, c'est-à-dire administrer et administrer au sens d'une administration générale. Donc, bien sûr que ça favorise le succès et bien sûr que ça favorise aussi la déculpabilisation des uns et des autres en disant « Ah, moi, si je fais ça, je fais juste ma partie, c'est pas moi qui ai tout fait, je suis pas complètement responsable. » Ça favorise aussi l'absence d'empathie, pour dire le mot que vous avez utilisé, avec les victimes. Il n'y a pas d'empathie avec les victimes. Mais est-ce que c'est un manque d'empathie en tant que tel? Non, parce que si c'était un manque d'empathie neurocognitive, ben ces gens n'auraient pas d'empathie pour le reste. Ils ont beaucoup d'empathie pour leur famille, leurs copains, leurs trucs, leurs machins. Et il y a un exemple, surtout, qui est assez caractéristique de cela, que j'ai retrouvé beaucoup au Cambodge, mais que j'ai surtout retrouvé dans les archives du Père Desbois, que vous connaissez, j'imagine, où j'ai eu la chance de visionner presque tous les entretiens qu'il avait fait. Vous savez, le Père Desbois, c'est quelqu'un qui a travaillé sur la Shoah par balle et qui a été interviewé tous les témoins, mais les témoins directs de ces massacres.
En Ukraine essentiellement,
et qui raconte des choses incroyables, comment les tueries se faisaient au quotidien. Et ce que j'ai repéré dans énormément de témoignages, c'est qu'il y avait toujours quelqu'un qui racontait cette histoire singulière, c'est que, à un moment, tous les juifs étaient amenés, quelqu'un voyait une petite fille, un petit garçon, dont il était sûr qu'il n'était pas juif. Et à ce moment-là, ces gens qui ne participaient pas au massacre, mais qui étaient témoins, mais qui aidaient, qui faisaient la bouffe, qui préparaient les fosses et tout ça, allaient voir les responsables SS en disant, mais celui-ci... Il y a erreur. Et à chaque fois, l'enfant était sauvé. Alors, le Père Desbois a une interprétation par rapport à cela qui consiste à dire, voyez bien qu'il y a toujours quelque chose de cette culpabilité qui réémerge et nous parle de ces victimes qu'ils ont sauvées pour se faire entendre, pour enfin nous faire comprendre que ce n'est pas des monstres. Moi, je suis moins optimiste.
Oui, bon.
En fait, pour qu'il y ait une sélection juste, il faut qu'il y ait des exceptions. Dès lors que vous en sauvez un, vous dites... En même temps, tous les autres, ils étaient bons à tuer, bien sûr. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre. Tous les autres étaient bons à tuer. La preuve, j'en ai sauvé un qui n'était pas bon à tuer. Donc c'est beaucoup plus inquiétant et ça montre que l'empathie n'est pas l'élément central parce qu'ils ont de l'empathie pour ce petit garçon, pour cette petite fille. Énormément d'empathie. Mais ils n'en ont plus pour les autres. Donc c'est pas une composante neurocognitive. C'est bien une composante rationnelle de la conscience. Oui.
Est-ce qu'il y a une autre question?
J'ai juste une question sur qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? Est-ce que ça peut aider à travailler sur l'éducation, sur le discours qu'on peut tenir aujourd'hui? Vous faites beaucoup référence à Daesh et à cette capacité à se rendre disponible ou cette incapacité à ne pas se rendre disponible. Est-ce que vous avez mûri, vous, quelque chose de cet ordre-là?
Ah ben, bien sûr que ça répond un peu à la question aussi que posait Stéphane, à savoir, est-ce que tout ça, c'est juste une angoisse glaçante avec une certitude que ça va nous retomber sur le coin de la figure et que rien n'est évitable? Au contraire, je pense que, en tout cas, moi c'est mon optimisme pathologique, même dans un travail comme celui-ci, c'est-à-dire qu'on a toutes les solutions en main grâce à cela. Toutes les solutions, ça veut dire qu'on n'a jamais vu de génocide dans des sociétés démocratiques. On n'a jamais vu de génocide dans des sociétés qui respectent les droits des individus, où il y a des forces constructives, où il y a des contre-pouvoirs, où il y a tout ce qui est une démocratie, pas simplement un système électoral, tout ce qui est une démocratie. Il peut y avoir des abus, il peut y avoir des choses, mais là, on ne l'a jamais vu. Par contre, dans les autres régimes autoritaires, populistes,
antidémocratique, oui, ça veut dire que c'est possible dans certaines conditions sociales et historiques, ce n'est pas possible dans d'autres conditions sociales et historiques. Ça veut dire qu'il faut veiller toujours. Et c'est pour ça que je dis que la démocratie, ce n'est pas simplement le processus électoral, puisqu'on a vu des tyrans venir au pouvoir dans un processus électoral. C'est bien
évidemment.
Ce n'est pas de ça dont je parle. Ça veut dire qu'il faut être les garants, mais les garants d'un régime démocratique fort, luttant contre tous les populismes, luttant contre les exclusions, luttant contre ces choses-là. Par exemple, aujourd'hui, si on veut faire quelque chose, il faudrait pouvoir dire haut et fort que les populations musulmanes ne sont pas nos ennemis, ce sont nos alliés les plus fidèles contre Daesh et contre le radicalisme. Le radicalisme salafiste ou le radicalisme djihadiste ne prend pas sa source dans l'islam, il prend sa source dans des régimes politiques qui sont des régimes dictatoriaux. Il faudrait pouvoir dire aux gens que justement les migrants qui arrivent et qui sont en train de mourir dans la Méditerranée, ce sont eux qui n'ont pas voulu être des génocidaires. Ce ne sont pas des terroristes potentiels, ce ne sont pas des assassins potentiels, ce sont ceux qui ont fui pour ne pas être. C'est comme si on avait dit, les juifs qui fuient en Suisse, bah, ce sont des potentiels nazis, si on les accueille, ils vont se transformer en nazis. Non, c'était des victimes, c'est pas parce que... Voilà, et aujourd'hui, on est en train de nous dire... Et ce sont ces discours-là qui doivent absolument être véhiculés pour que la haine de l'autre ne soit jamais au service d'une idéologie qui, un jour, deviendra une idéologie d'extermination.
On pourrait néanmoins vous répondre autrement. Je vous renvoie à un livre très intéressant qui est paru chez Odile Jacob, un prof de la Seine-Saint-Denis, Yannis Schroeder, qui est par ailleurs un copain avec qui j'ai débattu récemment. Le bouquin s'appelle « Pour en finir avec l'ère victimaire ». Et ce qu'il dit, c'est que dans une démocratie comme la nôtre, l'éducation sur la question de l'enseignement de la Shoah en particulier a échoué. Et a échoué en particulier dans ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires, dans ce qu'il avait appelé lui-même d'ailleurs les territoires perdus de la République, qui avait valu d'être attaqué très violemment, alors que c'était plutôt un socialiste d'ailleurs par la gauche, hein, ce qui est d'ailleurs vous mentez. Pas possible. Et ce qu'il dit, c'est qu'il dit que si, on, et de ce point de vue, ton livre est très heuristique, hein. Ce que dit Yannis Schroeder, c'est que l'enseignement, c'est à partir de 89 hein, que l'enseignement de la Shoah est entré comme tel dans l'enseignement français secondaire. Ce qu'il dit, c'est qu'au fond, pour toute une série de d'élèves auxquels il a été confronté depuis 20 ans, hein, un peu comme toi, tu as été confronté, hein, ces victimes ne sont pas mes victimes. Ces victimes ne sont pas des victimes. Donc, refus d'empathie avec les victimes, en revanche. Et ce qu'il propose, qui est très fort, très provocant, mais très fort, dit, moi, j'en passe par les bourgs. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que même les mômes qui me disent, ces victimes ne sont pas des victimes, je ne les reconnais pas comme des victimes, néanmoins, je ne peux pas m'assimiler aux bourgs. Et donc, en passant par les bourreaux, eh bien, plutôt qu'en passant par un protocole compassionnel avec les victimes, alors, évidemment, du coup, il est très attaqué parfois par les victimes de rescapés de la Shoah encore vivants, etc., qui disent ben, on n'a pas le droit de contourner les victimes. Il est bien d'accord, bien sûr. Il est bien d'accord, lui-même étant d'une famille qui a été très, très, très durement touchée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais si on en passe par les victimes, l'effet est contre-productif. Il faut en passer par les bourreaux pour en venir éventuellement aux victimes. Et en fond, c'est ce que fait ton livre. Hein. Les victimes ne sont pas présentes, très peu présentes. On en passe par les bourreaux, et évidemment, les effets de connaissance, les effets d'intelligibilité sont extraordinairement puissants.
À une condition, c'est de faire des bourreaux des pauvres types, ce qu'ils sont. Ah. C'est-à-dire que, justement, ce qui avait motivé, grand risque, je travaillais depuis des années sur cette question des bourreaux, mais ce qui a motivé mon... Le fait que je m'intéresse aussi à Daesh, c'est la publicité qui a été faite sur les auteurs et
la fascination,
et j'avais écrit un article à ce moment-là dans Télérama pour justement dire arrêtons d'héroïser ces gens, il ne faut absolument pas donner leur nom, il faut qu'ils meurent dans le néant, il faut que les victimes soient connues et que les auteurs soient des inconnus, qu'ils soient néantisés le plus possible, qu'on ne connaisse pas leur nom pour les détruire comme ils ont voulu détruire. Justement, si on en fait des figures héroïques, il va y avoir une identification. Si on en fait ce que j'ai essayé de faire, des pauvres lâches, ça change la donne. Ce qui m'a beaucoup influencé dans mon travail, c'est le temps que j'avais passé avec un peintre cambodgien qui s'appelle
Van Natt, ami de Rétipal, aujourd'hui disparu, et j'avais fait des ateliers pour des enfants cambodgiens à Phnom Penh avec lui. Ils peignaient, ou ils essayaient de se réapproprier l'histoire par la peinture. Lui, là, les seuls documents dont on dispose vraiment sur le mode d'extermination, c'est les peintures que Van Natt a fait. Mais ce qui est fondamental dans ces peintures, c'est la disproportion que l'on voit entre les bourreaux et les victimes. Et si on regarde bien, on voit leur médiocrité, on voit leur lâcheté. J'ai toujours insisté là-dessus, parce que qu'est-ce que c'est qu'un type super fort qui a un gourdin à la main avec un type qui a des menottes? C'est pas un héros, c'est un pauvre type. Et tout ce travail de montrer l'absence d'intérêt de ces personnages, oui, ça va dans le sens de ce que tu dis. Si on veut vraiment que les gens se désidentifient, il faut les montrer tels qu'ils sont.